On est aujourd'hui le jeudi 24 juin et le 12 Tammuz. On continue et on termine le cours sur Parshat Balak. On a expliqué hier, c'était, je pense, la grande nouveauté du cours, ce que signifie en hébreu la malédiction. Jusqu'au cours d'hier, on avait toujours l'impression que la malédiction, c'est quelque chose de très mystérieux, qui fait tout de suite allusion à la sorcellerie, à la magie, ou toutes sortes de superstitions. Et on s'est aperçu hier que finalement, la malédiction est quelque chose qui traverse l'histoire, qui est très très proche de nous. Dans chaque génération, la malédiction prend une autre forme selon la mentalité, le tempérament des civilisations et des peuples de cette génération. À notre époque, on a démontré, et sans le moindre doute possible, que toute la force médiatique, sans rentrer bien sûr dans les nuances de la bonne presse, s'il y en a une, mais que toutes les forces médiatiques étaient l'expression même de la malédiction, en ce sens que les médias sont au service du pouvoir, et le pouvoir, très globalement, un peu partout dans le monde, se sert des médias pour pouvoir donc introduire et répandre la malédiction dans les peuples. Qu'est-ce que la malédiction? On a expliqué hier que le mot malédiction se dit de trois manières en hébreu, soit les kalel, c'est-à-dire légèreté, traduit directement dans le langage moderne, la légèreté, c'est-à-dire que les médias s'efforcent d'entretenir un comportement de totale légèreté face aux véritables problèmes. Ils endorment les peuples, ils les privent de la véritable prise de conscience qui permettrait au peuple de se réveiller à temps face au danger. En ce sens-là, à cause des médias, les peuples sombrent dans une légèreté totale. Après, on a expliqué que le mot malédiction se dit aussi en hébreu laor, qui signifie illuminer, c'est-à-dire que les médias créent toutes sortes d'idéologies qui vont donc aider à construire, ou plutôt à détruire, et à plonger le peuple dans la légèreté. L'idéologie, par exemple, en ce qui concerne l'Europe qui est en train de sombrer et disparaître, l'Europe blanche et chrétienne, donc la tolérance, la liberté d'expression, la lutte contre le racisme, et toutes ces belles notions qui sont toutes justes, bien sûr, mais qui sont utilisées par Bilham, par les médias, pour détruire les nations. Et enfin, on a expliqué la troisième traduction de la malédiction en hébreu, la couve, qui veut dire nekeva, qui veut dire féminin. Les médias agissent pour féminiser le monde, c'est-à-dire lui enlever son esprit guerrier, combatif, volontaire, de manière donc à l'affaiblir et préparer sa destruction. Alors, bien sûr, on peut poser la question, et je n'y répondrai pas vraiment, mais les médias font partie intégrante de ce monde qu'elles sont en train de détruire. Alors, comment se fait-il finalement qu'elles jouent contre elles? On répondra tout simplement que c'est le phénomène Bilham qu'on va continuer d'expliquer aujourd'hui. Bilham est un phénomène véritablement surnaturel. Il échappe à la logique, car effectivement, comment une partie d'un peuple, comment une partie d'une civilisation peut être le complice de son autodestruction? On pourrait appeler ça la haine de soi, on pourrait trouver toutes sortes de définitions selon une approche beaucoup plus profonde et beaucoup plus psychologique de l'homme et de la nature humaine, mais en tous les cas, dans la Bible, dans la Torah, ce phénomène s'appelle Bilham. Bilham est un homme qui, finalement, se met au service de la destruction du monde, tout en sachant que lui-même va être détruit, comme on le voit clairement dans notre passage. Bien sûr, comme je l'explique toujours, dans la Torah, les choses sont extrêmement condensées, mais on le voit, et je vais le répéter à nouveau dans le personnage de Bilham. Bilham voit clairement, puisque c'est les mots qui lui sont mis dans la bouche. Bilham voit très clairement, et déjà avant que ces mots lui soient mis dans sa bouche, Dieu lui a déjà dit clairement, ne va pas avec les messagers de Balak, je t'interdis d'aller avec eux, car sache que ce peuple est béni. Donc, Bilam n'a pas de doute, il sait où est la vérité. Je vous montrerai encore aujourd'hui que lui-même va clairement exprimer sa conscience de la vérité. Il sait que ce peuple est béni. Il y a un moment même où il va demander de pouvoir faire partie de ce peuple, de mourir au milieu de ce peuple, que la part de ce peuple soit sa part, donc il n'a aucun doute. Donc, comment se fait-il qu'il s'acharne à aller contre ? C'est de l'auto-suicide. Et finalement, il mourra de la main d'Israël, non ? Dans l'une des parachotes qui suivent. Donc, il sait qu'il se suicide. Mais c'est le phénomène Bilham, quelque chose d'absolument surnaturel. Il y a quantité de phénomènes complètement surnaturels dans l'histoire. On est en plein phénomène de ce genre, c'est depuis de nombreuses années déjà. Chaque jour, on se rapproche davantage vers la catastrophe. Et tout le monde le sait. Pourtant, tout le monde continue à encourager, renforcer et préparer la destruction du monde. Mais c'est comme ça, c'est le phénomène Bilham. On n'a pas besoin d'en expliquer plus. C'est le phénomène Bilham. Peu importe finalement quels sont les mécanismes beaucoup plus profonds de ce phénomène. En tous les cas, on continue et on va rentrer plus encore dans les détails. On est dans le dernier chapitre de cette paracha, vers chapitre 25, lorsque après avoir béni, je dis entre parenthèses car on verra que ce n'est pas si bénédiction que ça, après avoir béni Israël, la Torah, donc Bilham, termine en donnant, selon les explications des maîtres et de Rashi, en donnant finalement un conseil à Balak. Il lui dit, le Dieu de ce peuple a en horreur la débauche, fais-les tomber dans la débauche et tu verras que leur Dieu va les abandonner. Et c'est pour ça que, bien sûr, sans l'explication des maîtres, on aurait du mal à comprendre quel est le lien entre toute la paracha et la fin de la paracha. La fin de la paracha termine donc dans une orgie d'une partie d'Israël avec les filles de Moab. On ne comprend pas ce que ça vient faire. Et bien sûr, comme je viens de le dire, Rashi explique que finalement, ce n'est pas un hasard si ce sont les filles de Moab, parce que Bilham se rend donc compte qu'il n'était pas arrivé véritablement à maudire. On va voir que ce n'est pas si évident que ça. Mais il n'était pas véritablement arrivé à maudire, il a été contraint de bénir. Donc comme pour se venger de ce que Dieu lui a fait, il a donné ce conseil à Balak, « Je ne suis pas arrivé à les faire tomber par la malédiction, alors fais-les tomber par la débauche. » Et tout de suite le verset dit, « Vayeshev Israël Beshittim, Israël était installé à Shittim, donc un endroit près de Moab. » Vayachel ha'am liznot el bnot Moab, et le peuple a commencé à se prostituer avec les filles de Moab, envoyées par Moab, sous le conseil de Bilham. Maintenant, regardez ce qui nous intéresse, nous. Bien qu'on reprendra tout ce passage la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, c'est Pinchas qui est lié à la fin de notre paracha. Vatikrena le'am nezivche Elohim. Et les filles demandaient à ceux qui se prostituaient avec elles, de servir leur Dieu avant l'acte. Tu veux, alors prosterne-toi devant mon idole. C'était bien sûr tout ce qui avait été prévu et manigancé. Chaque fille avait dans sa poche une idole de Péor, comme on va voir. Et juste avant, elle sortait l'idole et lui disait, rends d'abord un culte à l'idole, ce qui signifie, comme on va le voir, fais tes besoins devant l'idole et après tu feras tes besoins avec moi. Puisque de toute façon, aller avec une prostituée ou aller aux toilettes, c'est exactement la même chose que ça sorte d'un côté ou que ça sorte de l'autre, c'est le même cabinet. En tous les cas, c'est exactement ce que la Torah veut nous faire comprendre. C'est pour ça qu'elles ont choisi le culte de Péor, pour dire que finalement, il n'y a pas de différence entre eux. Aller aux toilettes ou aller avec ce genre de femme. Vatikrena leham les ivrei Elohim. Et donc elles ont exigé des juifs qu'ils se prosternent devant leurs idoles. Vayochal ha'am veishtachul Elohim. Et après avoir mangé, le peuple s'est prosterné. Pourquoi fallait-il qu'ils mangent? Puisqu'on va tout de suite voir qu'il s'agit du culte de Péor, où plus tu fais de gros besoins et plus tu sers bien l'idole. Donc, ils se remplissent le ventre, car sinon ce verset n'a aucune explication possible. Pourquoi nous dit-on qu'ils sont en train de manger juste avant de se prosterner? Puisque celui qui faisait ce culte-là se remplissait d'abord le ventre. D'ailleurs, comme les Romains dans un autre contexte beaucoup plus tard, ils mangeaient, vomissaient et remangeaient. Donc il y a, d'une certaine manière, aussi cette sorte de perversion liée à la nourriture qu'on retrouve plus tard chez les Romains. Mais en tous les cas, ici, il s'agit donc de manger. Et au lieu que ça ressorte par la bouche comme chez les Romains, ça ressort par l'endroit naturel. Et après, comme on le sait, donc, ils prenaient les excréments, ils badigeonnaient l'idole. Et donc, c'est pour ça qu'on nous dit « Vayocha la'am » que le peuple a mangé, « Vayishtachavu l'Elohem » et ils se sont après prosternés devant l'idole. « Vayitzamed Israël et Baal Peor » et Israël s'est collé à cette idole qui s'appelle Baal Peor. Peor qui signifie en hébreu « se mettre à nu », mais cette partie-là, cette partie du corps, quand on la met à nu, ça s'appelle « l'efa'er et tatsmo », donc l'anus, pour le dire une fois. Ça s'appelle l'Ephaer, et donc c'est pour ça que cette idole s'appelle Peor, parce que c'est l'idole, l'idolâtrie de l'anus, qu'on va appeler dans notre cours le culte de la miel, comme je le fais toujours, je suis désolé, mais c'est même âge de ça qu'on parle, il n'y a pas que moi qui suis insolent, la Torah me dépasse. Et donc, Vaïtsamed, Israël et Baal Peor, donc Israël s'est collé au culte de l'anus, Vaïchar Af Hashem be Israël, et la colère d'Hachem a éclaté contre Israël. On arrête là pour l'instant. Alors ici, on est véritablement dans un des passages les plus codés de la Torah. Et à chaque fois qu'on est en face de cette idole de l'anus, on est à chaque fois choqué. Et à chaque fois, je dois réexpliquer de quoi on parle. Et à chaque fois, un petit peu d'une autre manière. D'abord, relions et relisons. Relions ce qui se passe à tout ce qui a été expliqué jusqu'à présent. Finalement, Bilham étant l'incarnation de cette parole qui affaiblit, qui illumine et qui féminise, automatiquement un peuple qui succombe à cette parole va automatiquement tomber dans le culte de la miel. C'est quoi le culte de la miel? La miel étant, comme on le sait finalement, le déchet qui, à vision humaine, bien sûr, évidemment que ça peut être récupéré dans les champs, mais en tous les cas, dans le monde restreint de l'homme et des hommes, des citadins, donc de la société, puisque c'est de ça qu'on parle, le déchet étant ce qui est irrécupérable, ce qui est jeté, ce qui ne sert à rien, ce que le corps ne veut pas, ce dont on ne peut rien faire. Et donc le culte de Peor, comme on l'avait expliqué des milliers de fois, est un culte qui, d'une certaine manière, exprime au mieux ce qu'est la mentalité de ces hommes ou de ces peuples qui ont succombé à la parole de Bilham. C'est-à-dire, on ne croit plus en rien, on se laisse aller et on valorise le néant, on valorise le déchet. C'est-à-dire, tu n'as plus rien sur quoi t'accrocher. Finalement, ta vie devient un véritable déchet. Et plus encore, on rend un culte au déchet. Au point que si tu parles après sérieusement de choses sérieuses, on te regarde comme un fou. Et on le voit dans notre génération d'une manière inimaginable. Nos maîtres avaient déjà prévu dans le Talmud que juste avant la délivrance finale, « Sur mera istolel », que celui qui s'écartera du mal, qui osera encore parler un langage de vraie valeur, sera pris pour un fou. Alors, peut-être que notre génération est même un petit peu en avance. Je plaisante bien sûr sur le Talmud, parce que le Talmud parle de fous, mais notre génération a dépassé le Talmud. Je plaisante bien sûr, car le Talmud est en avance sur notre génération. Mais l'a dépassé en ce sens que c'est beaucoup plus raffiné. On prend. Chez nous, quand quelqu'un va parler tout simplement du sauvetage de l'Europe, alors qu'en vérité je suis juif et je vis en Israël, qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'Europe? Mais j'en ai à foutre parce que je suis un humain. Et ça me fait mal de voir comment toute une civilisation est en train de disparaître. Parce que finalement, avec elle, elle va entraîner le monde entier. Et donc, chaque homme, quelle que soit sa race, sa couleur, sa religion, doit se sentir concerné par le malheur qui peut atteindre tous les hommes. Donc, je referme la parenthèse. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette civilisation beaucoup plus raffinée, quand quelqu'un donc va parler de vouloir sauver la race blanche, on ne va pas le traiter de fou. On lui prépare, on peut dire, une contre-attaque beaucoup plus sophistiquée. Il va être attaqué par les organismes du droit de l'homme, il va être attaqué par les ligues antiracistes, on va le traiter de tous les noms les pires pour finalement le rayer de la carte humaine. Et donc tout ça pour continuer la farce et pour continuer à affaiblir et pour continuer à amener un monde entier vers les futures chambres à gaz dans lesquelles je pense qu'il n'y aura cette fois-ci pas que des juifs tels que c'est parti. En tous les cas, c'est toujours le même problème. On fait descendre l'homme dans un état de désespoir, dans un état finalement de déchet inimaginable où on l'oblige à ne plus croire en rien. Mais il y a une sophistication de la miel au point que si quelqu'un ose se rebeller contre le culte de la miel, alors il est pris comme un hérétique. Et c'est ça le message profond qu'il y a ici. Comment la miel peut-elle devenir un culte ? Un culte, c'est quelque chose de noble, d'élevé. Ça veut dire qu'on arrive effectivement dans une situation où si quelqu'un ici dans notre pays ose encore affirmer qu'on ne peut pas et on ne pourra jamais faire la paix avec nos voisins, ce que tout le monde sait mais que personne n'a le courage de dire et personne n'a le courage de penser même, bien que c'est refoulé dans le subconscient, si quelqu'un le dit aujourd'hui à haute voix, il est considéré comme un hérétique, comme un homme qui ne fait plus partie de la société des hommes. Pourquoi ? Parce qu'il a osé se révolter contre le culte de la miel. C'est-à-dire que cette miel, elle est tellement sophistiquée parce qu'elle est appuyée par le langage de Bilham que si quelqu'un ose s'opposer à ça, c'est comme s'il combattait Dieu. Donc la Torah sait ce qu'elle dit quand elle nous montre que l'homme est capable de créer des idéologies du déchet à ce point pervers que c'est véritablement considéré comme une atteinte à Dieu, enfin à Dieu, à quelque chose de divin, si tu vas contre. Maintenant, on comprend aussi, selon le cours d'hier, pourquoi ça se solde, ça s'exprime par les filles. On a expliqué que tout le but de Bilham, c'est de féminiser le monde. Et donc, comment qu'on sait que le monde est féminin lorsqu'il ne vit plus que pour des filles qui sont comme des pots de chambre? Ça veut dire que lorsque ce genre de filles montre que l'homme est devenu complètement soumis au féminin. Et donc automatiquement, c'est ce que veut faire Bilham. Bilham, par son langage, féminise le monde, il enlève à l'homme sa virilité. Quand je dis à l'homme, c'est à la femme, la vraie aussi, bien sûr. Je ne vais pas me répéter par rapport au cours d'hier. Il enlève, il prive le monde de sa dimension masculine, virile, authentique. Et automatiquement, par quoi ça s'exprime ? Que tout le monde maintenant sort en boîte pour se payer un pot de chambre. Et donc c'est de ça qu'on parle ici. Ce genre de civilisation, c'est la civilisation qui est tombée finalement sous le charme dangereux, mortel de Bilham. Je vais juste rajouter quelque chose qui est extrêmement important que je prouverai après. On a expliqué hier que la parole de Bilham, c'est aussi bien sûr dans notre monde moderne, c'est surtout les médias, donc toute la presse c'est l'expression moderne de Bilham aujourd'hui, surtout en Israël et dans d'autres pays, enfin surtout dans les pays occidentaux, puisque la presse est au service de l'affaiblissement et de la féminisation de la société. Et donc automatiquement, on comprend pourquoi ici on parle du culte de la miel, parce que très globalement, sans englober bien sûr la bonne presse s'il en existe une, mais très globalement, on le sait, quelle est la première chose qu'on apprend à un journaliste ? Tu veux que ça se vende, il faut automatiquement que tu révèles ce qui va mal. Parce que personne n'est intéressé à ce qui est bien. C'est l'une des lois fondamentales du journalisme. Et c'est effectivement ce que l'on voit et ce que l'on entend partout. 99% d'un journal, 99% d'une émission télévisée, 99% d'une émission radio, c'est qu'est-ce qui va mal. On n'entendra jamais ou très rarement qu'est-ce qui va bien. Parce que c'est vrai que on entendra tous certainement tout à l'heure à l'émission journalisée de 11h que deux papas ont violé leur fille et puis qu'il y a eu un accident de route, etc., etc. Mais on n'entendra jamais que pendant le même moment, il y a eu dans ce pays des milliers, voire des dizaines de milliers de maaser chesed. Il y a des milliers et des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui font du bien. Il y a eu des milliers de personnes sauvées dans les hôpitaux. Il y a eu des milliers de donateurs qui ont donné une bonne partie de leurs biens à de grandes causes. Il y a eu des milliers de découvertes. Il y a eu des milliers de brevets qui vont sauver des milliers de personnes. Et ça, chaque jour, dans ce petit pays, comme dans tous les pays du monde. Or, vous ouvrez le journal télévisé, de quoi on vous parle? De la miel. Un père qui a violé ses filles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le scandale. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand scandale dans l'histoire humaine que cette véritable, c'est inimaginable, j'ai même pas de mots, ça a coupé le souffle. Au moment où un père viole ses deux filles, et malheureusement c'est vrai, il y a une dizaine de savants en Israël qui trouvent de nouveaux médicaments qui vont sauver des milliers de vies, mais ça on n'entendra jamais. C'est ça le culte de la miel. Le journaliste ne fait que mettre en évidence la miel. Et qu'est-ce que c'est finalement ? Le culte de Péor moderne, et bien ce sont des centaines de millions de personnes dans le monde qui dès 7h du matin se tiennent avec le journal dans la main, dans les métros, dans les autobus ou dans le café ou chez eux. C'est ça le culte de Péor. Parce que je suis en train de quoi ? De lécher de la miel. Puisque ça ne parle que de ça. Donc vous comprenez comment d'une manière très actuelle, on peut véritablement démontrer, malheureusement dans ce cas-là, l'extrême actualité, pour ne pas dire l'extrême avance de la Torah sur toutes les générations. Et je vous montre comme quoi le culte de la miel est dans toutes les générations le culte numéro un. Et dans notre génération, qui est la génération médiatique plus que jamais, jamais l'homme n'aura autant servi la miel que dans notre génération. Et c'est ça le langage de Péor. C'est de ça qu'on parle. Alors maintenant, bien sûr, il y a des journaux qui sont plus remplis que d'autres, et ça va dépendre de combien le journaliste a mangé avant de cracher ce qu'il écrit. C'est ce dont on nous parle ici. D'accord. Bon, on aura des ennemis de plus maintenant, c'est le journaliste. Sauf le meilleur qu'on a à nos côtés. Comment ?
Ça vient en trois dimensions.
Casser les journalistes.
Effectivement, ça vient en trois dimensions, parce que il y a tellement à faire ces besoins.
Que... statistique, ce qu'ils appellent dans les journaux télévisés israéliens.
C'est un journaliste qui parle, pour ceux qui ne le savent, qui ne le sauront pas.
C'est-à-dire, vous regardez, des fois je suis obligé de le faire, ça m'arrive, mais vous regardez le journal, notamment celui de la 2, mais celui de la 1 israélienne. En fait, à part quelques sujets politiques, géopolitiques qui égrènent comme ça et qui ne sont pas marrants non plus, les 70 à 80% c'est plilim, c'est exactement ce que vous dites. Et c'est un phénomène qui s'accentue. C'est-à-dire
les délinquances,
et les mœurs. C'est trois quarts du journal.
Même dans des journaux qui sont les journaux nationaux officiels. On ne parle pas de France Dimanche.
C'est ça qui intéresse le public.
Mais de plus en plus. Donc ça qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si toi et moi, d'accord, nous ne sommes pas intéressés à savoir que tel pharmacien, tel savant en pharmacie a découvert un produit qui va faire avancer la lutte contre le cancer. Mais c'est le cas au moment où je passe, c'est absolument évident, et pas seulement dans notre pays. Mais que ce qui nous intéresse, c'est de savoir que Madame Untel a accouché avec Untel et que Monsieur Untel a violé ses deux petites filles. C'est que ça qui nous intéresse, parce que c'est que ça qui se vend. Mais attends, alors de quoi on parle? Je pense que la Torah est en retard de plusieurs années-lumière sur la réalité. Comprenez? Seulement à l'époque, on n'avait pas de journaux, on n'avait pas de presse écrite ou électronique, et donc on exprimait ces notions-là, dans, on pourrait dire de la manière la plus concrète, par une statue qui avait peut-être la forme d'un anus, je peux imaginer que oui, devant laquelle on faisait ses besoins et qu'on badigeonnait l'anus de la statue avec ses propres besoins. Et les prêtres étaient là, ils applaudissaient. Ah, oh, celui-là, il a une bonne colique, qu'est-ce que tu as mangé? Donne-nous ta recette pour qu'on l'indique aux autres. Mais c'est de ça qu'on parle lorsque un, il dit à son copain: ouah, t'as vu ce qui s'est passé avec monsieur Intel qu'on pensait être un monsieur tout à fait normatif? Eh ben, il vient de violer ses deux petites filles. Eh ben, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Bon, comme les journaux sont de grosses puissances internationales, priez pour moi, pour qu'on ne me retrouve pas qu'une balle dans la tête. Et tout ce qu'on peut leur dire pour leur assurer, c'est qu'il y a des milliards et des milliards moins de personnes qui m'écoutent, qui lisent les journaux, car on est encore en plein dans le culte de Péor. Et les journaux n'ont pas à avoir peur de ce genre de révélation pour l'instant. En tous les cas, on va maintenant revenir au personnage de Bilham. Finalement, comment il fonctionne, Bilham? qu'est-ce qui se passe? Comment un homme qui sait, qui connaît la vérité, peut encore se comporter de cette manière-là? Surtout qu'avant de rentrer dans le plus de détails dans le texte lui-même, je dois vous rappeler quelque chose de phénoménal que disent nos maîtres, et qui est la chose suivante. Il y a beaucoup plus que ce que je viens d'expliquer comme lien entre toute notre paracha, c'est-à-dire les bénédictions entre parenthèses, et la fin de la paracha, la débauche. J'ai expliqué plus ou moins un premier niveau pourquoi, mais nos maîtres vont beaucoup beaucoup plus loin que tout ce que j'ai expliqué, et ils disent la chose suivante. Ils rapportent, c'est dans le Midrash Rabbah, vous pourrez le voir, sur ce passage-là, ils rapportent un verset qui dit dans les proverbes du roi Salomon, « Mieux vaut les réprimandes d'un juste que les embrassades d'un renégat. » Et nos maîtres disent à quoi Shlomo fait allusion, « Mieux vaut les réprimandes terribles exprimées sous forme de véritables calamités qui vont s'abattre sur nous. » Exprimé par Moshe dans la Torah, les deux fameuses parachiotes Kitavo ou Berukotai, où il nous décrit tout ce que malheureusement nous avons vécu. Lui était au début de l'histoire, nous on peut lui dire « t'es encore loin de la réalité, on en avait plus que ce que tu décris », bien qu'il avait fait allusion au fait qu'on en verrait plus encore que ce qu'il décrit, puisqu'il écrit lui-même « et tout ce que je ne peux pas écrire dans la Torah s'abattra aussi sur vous ». C'est-à-dire qu'après nous avoir dit tout ce que malheureusement on a vu, et si on ne l'avait pas vu et vécu, on n'aurait pas pu croire que ça soit possible, il prévient qu'il y aura encore plus que ça. Ben oui, il y aura par exemple des petits-enfants de 12 ans, 13 ans, qu'on mettra vivants sur une table dans le laboratoire d'Auschwitz et qui seront ouverts, dépecés, comme ça, par un soi-disant médecin, etc. Moshe faisait allusion à ça, mais il ne pouvait pas le dire, ça, parce que lui-même, il en serait mort, son cœur se serait arrêté de battre s'il l'avait écrit. Mais il nous prévient que plus encore sera possible. Et tout ce qui se passe au moment où je parle, dans les prisons d'Iran, dans les prisons d'Égypte, et dans les prisons surtout du Hamas, pas si loin que ça, où les pauvres Palestiniens sont, je ne sais pas si le mot torturé suffit pour décrire ce que les pauvres Palestiniens subissent dans les prisons du Hamas au moment où l'on parle. Mais en tous les cas, on ferme la parenthèse. Moshe ne nous a pas ménagé par tout ce qu'il nous a prévenu qu'il allait nous arriver. Celui qui nous a bénis comme jamais personne ne nous a bénis sur terre, au point que, comme vous le savez, les plus belles louanges adressées à Israël se trouvent dans les versets prononcés par Bilham. Nos maîtres disent dans le Talmud que si ce n'était Bilham, on aurait inscrit toutes ces bénédictions dans le rituel de la prière du matin, mais comme c'est Bilham, on n'a pas voulu, mais on en a gardé au moins une qui est finalement la plus belle de toutes que l'on récite au moment où on rentre dans la synagogue. « Matovu ho'alecha Yaakov, qu'elles sont belles tes demeures et tes tentes Israël, etc. » Et donc, Shlomo Ameler dit « Mieux vaut les réprimandes que Moshe nous a adressées que les louanges que Bilham nous a adressées, parce que là, il s'agit des réprimandes de celui qui nous aime, et là, il s'agit des louanges de celui qui nous déteste. » Et les maîtres vont plus loin encore, et ils expliquent. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Bilham a été contraint de nous bénir, et que malgré lui, ses paroles magnifiques, suprêmement profondes et belles sont sorties de sa bouche, ça l'a tellement, tellement dérangé dans son fond intérieur, qu'il y a mis un tel Einara, d'accord, un tel mauvais œil, que finalement ces louanges nous ont fait plus de mal que s'ils nous avaient maudits. Comment ? Oh, ce qu'il est beau votre enfant, Bli Einara ! D'accord. S'il est beau. Oh, quelle belle maison, Bli Einara ! Oh, quelle réussite extraordinaire, Bli Einara ! Ça, c'est Bilal. Et ça marche ! Surtout quand on est quelqu'un comme Bilham, ça marche. Matovu alecha Yaakov, si on avait vu la tête qu'il faisait à ce moment-là, d'accord, on aurait compris que Dieu valait.
Dieu, en fait. Comment? Ça veut dire qu'il a été violé, son effèche, par Dieu.
Mais c'est ce qu'il va falloir expliquer. Il a été donc violé. Ça veut dire que d'un côté, on arrive ici à quelque chose de suprêmement complexe. D'un côté, et c'est ce que je vous avais répondu il y a deux jours, on ne peut pas dire que c'est simplement « bon Dieu lui a mis les paroles dans la bouche, mais lui, il n'a rien à voir avec ça ». C'est absolument évident qu'on ne peut pas parler avec un verre, même si on se force de dire que c'est un portable, on ne parle pas avec un verre. Il faut une structure qui permette de devenir un portable. Donc c'est clair que si ces paroles rentrent dans la bouche de Bilham, comme disent nos maîtres, c'est parce qu'il est aussi grand que Moshe. C'est-à-dire qu'il correspond malgré tout à une structure spirituelle capable de capter la parole divine et à un niveau extrêmement, extrêmement haut, comme lui-même le dira, qu'il voit des visions divines. Et donc, et on le sait de toute manière, il est appelé le prophète des nations, le premier rachis de la paracha. Donc il s'agit d'une structure humaine complètement, complètement au-dessus de la norme, aussi et autant au-dessus de la norme que les Moshés par rapport aux hommes. Et d'un autre côté, au moment même où la parole de vérité traverse sa bouche, il en profite, il trempe, il surfe sur la parole de vérité pour y mettre son Einara. Et nos maîtres disent, c'est à cause de ce Einara mis dans les bénédictions que Israël est tombé après dans la débauche. C'est-à-dire que quand nos oreilles ont entendu les bénédictions de Bilham, et qu'on n'était pas suffisamment, on pourrait dire, protégé par le flux mauvais de son mauvais œil qu'il mettait dans le train, dans les wagons de ses bénédictions, finalement, à quoi ça ressemble? On pourrait dire, et l'exemple, je pense, il est extrêmement juste et précis, à quoi ressemblent les bénédictions de Bilham? Au cheval de Troie. C'est exactement. Il a fait rentrer dans Israël un cheval de Troie. Tout le monde s'est mis autour pour contempler sa beauté. Et il a profité de l'émerveillement. Ça s'est ouvert. Les soldats sont descendus. Ils ont tué tout le monde.
Mais avant, c'est le Einara. En termes de, disons, des choses qu'on connaît un petit peu de loin, ça veut dire que tout ce qu'il pouvait avoir de Kadosh dans la parole divine, des mondes supérieurs, ça s'est inversé par les autres mondes de, en dessous de Klipat Noga, c'est-à-dire de toutes les trois Klipot Temeot.
Exactement. Et donc, c'est ce que la Torah commence à nous mettre en évidence. Il existe donc une structure, j'aime pas le mot, mais je vais le dire quand même, maléfique sur Terre, qui s'appelle Bilham, qui est capable de se connecter par ses propres mérites, car Bilham, encore une fois, est un homme qui a les réceptacles pour, qui est capable de se connecter au plus haut de la parole divine, non seulement de se connecter à cette parole, mais de la faire descendre, ce qui veut dire que c'est un double effort. Il faut d'abord se hisser jusqu'à la parole divine, et après il faut être capable de la faire descendre dans ce monde, mais en même temps qu'il capte la parole divine, il la transforme au niveau de son fond comme arme contre le peuple lui-même auquel est adressé et qui est concerné par cette parole divine. Ça veut dire qu'il dit une parole de vérité qui concerne Israël, c'est lui qui l'a dit, parole de vérité comme personne n'a encore jamais dit, mais cette parole de vérité se transforme en poison contre Israël lui-même, au point qu'il fait tomber Israël dans la débauche et le culte de la miel. Donc là, la Torah nous décrit un mécanisme inimaginable, comme quoi finalement, dans les principes et les règles et les mécanismes que Dieu a mis en place dans son monde, il a créé une structure qu'on va appeler la structure bilamique, Bilham étant le modèle biblique de cette structure qui traverse l'histoire, qui fait que un homme, c'est un concept ici, un homme est capable de se connecter à la vérité vraie et à s'en servir contre ceux qui appartiennent au monde de cette vérité. Alors, mais vous venez d'arriver, mais avec la vérité dans la bouche. Et donc, bien sûr, maintenant je vais révéler quelque chose qui jamais n'aurait pu être révélé avant dans l'histoire, en tout cas avant l'heure d'Internet. Mais aujourd'hui, à l'heure d'Internet où la communication elle est mondiale et tout est dit et plus rien n'est caché, car on est à l'heure des grands règlements de compte, à commencer ce que le prophète Ovadia avait dit juste avant la délivrance finale, les rescapés de Tzion, les rescapés de Tzion monteront sur le Har Tzion pour juger la montagne de Essav, viendra un jour où nous, les rescapés d'Israël, nous, les enfants de la Shoah et nous, les enfants de 2000 ans de pogroms et de massacres, nous réglons nos comptes avec ce monde et cette civilisation qui nous a tant martyrisés, qui nous a tant fait souffrir. Le prophète Obadiah nous avait dit qu'un jour viendra où Israël pourra enfin ouvrir la bouche et dire à haute voix ce qu'il était obligé de cacher quand il était encore véritablement entre les mains de ce monstre. Et donc, nos maîtres ont transmis de bouche à oreille, bien sûr pas devant un ordinateur qui allait faire entendre cette voix dans le monde entier. Ils ont transmis dans un langage codé de bouche à oreille, de génération en génération. Et même quand ils le transmettaient, ils changeaient les mots pour que si jamais une mauvaise oreille passait par là, on ne pourrait pas les prendre et les brûler. Ils ont transmis que Bilham était le modèle biblique qui faisait allusion à un certain christianisme qui allait dans l'histoire tant nous faire souffrir. Puisque qui, mieux que eux, incarne à la perfection le phénomène Bilham? Il se connecte avec un respect, une admiration quasi divine à notre propre source de vérité. Il se connecte à nos prophètes, à la parole divine, et ils reconnaissent et admettent que tout vient de là. Les créateurs de leur propre religion sont tous des juifs circoncis, barbus, la tête couverte, mangeant kasher, faisant shabbat et mettant les phylactères. Tous sont issus de cette matrice. Ils se connectent tous à cette matrice de vérité qui est leur source d'inspiration. Et voilà qu'ils se servent de cette source de vérité et d'inspiration pour se retourner contre la source elle-même et en faire le sujet de haine le plus fort et le plus puissant de leur histoire. Comment pouvez-vous à ce point haïr, martyriser, faire souffrir ceux qui appartiennent à cette source que vous vénérez tant? Par quelle magie, par quel tour de passe-passe, par quel phénomène incompréhensible, vous vénérez à l'entrée de chacun de vos villages un homme mis sur une croix, mais cet homme-là est juif de mère et de père juif, circoncis, mangeant kasher et faisant shabbat et mettant les phylactères? Vous n'existez que par le souffle d'un homme qui appartenait à ce peuple, et toute son inspiration, même à vous écouter, est une inspiration purement biblique hébraïque, et vous allez transformer le peuple de cet homme en votre pire ennemi, et vous allez le pourchasser, le poursuivre pendant des siècles et des millénaires. Vous allez le monter sur les bûchers, le déchiqueter avec le sabre des croisades ou les épées des croisades, lui couper la tête avec le sabre des cosaques, le transformer en savon et en cendre pendant la Shoah, et vous continuez à vous réclamer, inspiré de cette source. Mais d'où vous venez? Bilham, nos maîtres connaissaient le secret. Il y a un phénomène qui s'appelle Bilham, capable de se connecter à la vérité pour mieux détruire la vérité. Ça, c'est le grand, grand secret de notre parasha. Voilà ce qui aujourd'hui est dit dans le petit contexte de notre cours. Voilà ce qui très bientôt sera dit d'une manière beaucoup plus puissante, au point que les nations l'entendront et demanderont véritablement pardon. Comment avez-vous fait pour devenir l'incarnation vivante du phénomène de Bilham? Vous reconnaissez la vérité et vous vous en servez pour la détruire? Comment c'est possible? Voyons maintenant le personnage de Bilham, et maintenant tenez-vous bien, je vais vous montrer dans les versets eux-mêmes comment tout ce christianisme-là, je ne parle bien sûr pas de tout le christianisme, et je n'ai pas envie de rentrer dans les nuances, à mes vignes, à vignes, Mais comment un certain christianisme est l'incarnation même de ce phénomène Bilham. Regardez Bilham. On est maintenant dans le chapitre 23. Regardez le genre de sortie, le genre de phrase que Bilham va dire. On est dans le verset 10, dans le chapitre 23 de cette paracha. Il dit « Mi mana afar Yaakov ou mispar et trova Israël ?» Qui peut seulement être au niveau de la poussière d'Israël ? Même la poussière d'Israël est au-dessus des peuples. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Comment ? Regardez le kavod qu'il nous fait. Mieux vaut être une poussière juive qu'autre chose. Ta mot nafshi mot yesharim. Ah, si je pouvais mourir de la mort de ce peuple de justes. Ou tei achariti kamou, pourvu que je puisse finalement en faire partie de ce peuple. Je traduis d'après Rashi. Ça, c'est ce qu'il dit dans le verset 10. Comment peux-tu, à ce point, faire, malgré tout, rentrer du Einara au moment où tu dis, entre autres, cette phrase-là. Au moment où il dit cette phrase-là, je ne vaux même pas la poussière de ce peuple, et toute mon aspiration est de pouvoir en faire partie et qu'au moins vers la fin je puisse le rejoindre. Et à ce moment-là, tu as un œil contre eux qui va les faire tomber dans la débauche et dans la miel. Mais ce n'est pas fini. Regardons plus loin. On est dans le chapitre 24. Et regardez ce que dit le verset 1. Vayar Bilham ki tov beine Hashem levaret Israël. Bilham a enfin compris que Dieu voulait et que c'était bien à ses yeux, à Dieu, de bénir Israël. Velo alar kepam bepam likrat nechashim. À ce moment-là, Bilham a décidé qu'il ne chercherait plus jamais à aller vers les serpents. Traduit en bon français, il a décidé à ce moment-là de renoncer à la sorcellerie. Vayachet el amidbar panav, et il dirigea son visage vers le désert, et à ce moment-là, il va lui sortir les bénédictions les plus extraordinaires, par exemple, ma tovu roalecha Yaakov, etc. Or, nous savons que c'est précisément à ce moment-là, plus les bénédictions sont belles, et plus il y met son Aïnara. Or, pourtant, la Torah est en train de nous dire qu'il vient de comprendre maintenant que Dieu voulait bénir ce peuple et il a dit « Sache Dieu que je laisse tomber les serpents, maintenant je deviens monothéiste, j'ai compris, fini la sorcellerie, à ce qu'elles sont belles tes tantes, Yaakov. » Et tout ça, c'est une farce. D'où nos maîtres le savent. La fin du verset, incompréhensible. Il tourna ses yeux vers le désert. Dans le verset qui nous dit qu'il comprit que Dieu aimait ce peuple, le verset termine en disant « Il tourna ses yeux vers le désert. » Et nos maîtres posent la question « Qu'est-ce que signifie « Il tourna ses yeux vers le désert » ?» Un verset complètement incompréhensible. Vous savez qui est celui à qui on doit l'explication de ce verset ? Et c'est par hasard, ça ne pouvait être que lui. Onkelos, le fameux grand suprêmement grand converti romain, qui est devenu l'une des plus grandes lumières de notre peuple. Onkelos est le premier, après lui tout le monde va expliquer comme lui, qui nous révèle à quoi fait allusion ce verset « Il tourna ses yeux vers le désert ». Vous avez compris pourquoi ça ne pouvait être qu'un converti. Il dit « Sache qu'au moment où il est en train de reconnaître, vous regardez Onkelos sur ce verset, au moment où il est en train de reconnaître la grandeur d'Israël, aimé de Dieu, et qui, au moment où il dit à Dieu, je laisse tomber les serpents, à ce moment-là, il regarde vers le désert. Onkelos nous dit, je ne sais pas d'où est sa source, qu'elle dirait qu'il faisait partie de ces maîtres qui se baladent pas mal en haut avant de parler. Il nous dit, sache qu'à ce moment-là, il regarda la faute qu'Israël avait faite dans le désert, la faute du veau d'or. Il a regardé, il a fixé son regard prophétique, parce que c'est un prophète, sur la faute du veau d'or faite dans le désert. Et à ce moment-là, il a mis toute cette haine, toute la haine qu'il avait lorsqu'il a dit « Matvou l'Echa Yaakov ». comprends. Regardez ce que mon colosse révèle. Pourquoi je dis qu'il fallait que ça soit un guerre? Parce que qui mieux qu'un homme venant de Rome, et d'après nos maîtres, Rome est ce qui en est sorti, est l'expression la plus forte du phénomène Bilham. Qui mieux qu'un ancien Romain sait comment fonctionnent les Romains et ceux qui sont sortis d'eux? Le Romain, même au moment où il dit « Mais ma source d'inspiration, c'est la Torah des Juifs », à ce moment-là, il est en train de penser « Mais comment on peut les brûler, ces Juifs ?» Il n'y a qu'un Romain pour pouvoir vivre dans son cerveau une telle aberration. Comprenez, ils sont fous, ces Romains, absolument. Il n'y a qu'un Romain pour pouvoir avoir un cerveau bilamique qui fonctionne de cette manière-là. S'il vous plaît. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas un hasard si c'est Unkelos, le converti romain, qui nous révèle comment fonctionne Bilham, qui est le prédécesseur biblique de la Rome chrétienne. Il nous montre que sache que ces gens-là, dont je viens et je sais de quoi je parle, même au moment où ils reconnaissent qu'ils ne sont rien sans Israël, même à ce moment-là, leur haine contre Israël s'exprime d'une manière inimaginable, au point qu'ils vont aller véritablement chercher la miel partout où ils la trouvent. Et bien ça, le culte de la miel. Au moment où tu es en train de dire notre grandeur, qu'est-ce que tu cherches? Où ça va pas? La faute du veau d'or. Attends, et dis-moi, si déjà tu cherches dans ces zones-là, pourquoi tu ne regarderais pas aussi le don de la Torah qui a été donné dans le même désert? C'est ça un journal. On ne vous dira pas qu'au moment où le père a violé ses filles, un homme a sauvé 10 personnes. On vous dira qu'un père a violé ses 2 filles. C'est exactement ça le mécanisme journalistique de Bilham. Au moment où il regarde le désert et il regarde cette génération, qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Au moment même où lui-même comprend la grandeur d'Israël, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il est capable de faire, c'est aller fouiller la miel et la mettre en évidence. Ouais, mais c'est aussi le peuple qui a fait le veau d'or, hein? Oui, c'est vrai. On est aussi le peuple qui avons fait le veau d'or. Mais on est aussi le peuple qui a accepté la Torah. Et on est aussi le peuple qui a quantité d'autres bienfaits et mérites à son avantage. Donc ça sert à quoi de regarder la miel? Évidemment, nul n'est parfait, tout le monde à ses faiblesses et ses défauts. Mais quand on fait le bilan d'un homme, on regarde le bien, on ne regarde pas le mal. Et lui, il ne sait que regarder le mal. Ça, c'est Bilham, ça, c'est le Romain.
Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est joint à la colère de Dieu?
Sachez que, je ne sais pas si vous savez, qu'effectivement, c'est marqué comme ça dans le Talmud. Eh bien, vous avez une inspiration talmudique. Les maîtres du Talmud disent que, mais les mots que vous employez en français, que la spécialité de Bilham était qu'il arrivait à se coller à la colère de Dieu. C'est les mots mamash en araméen, pas en hébreu, parce que c'est le Talmud de la Gemara. Nos maîtres disent que Bilham, sa spécialité, c'était de trouver le moment où Dieu se met en colère, ou la raison pour laquelle il se met en colère, et se coller à ce moment-là. Exactement. C'est clair que le veau d'or a provoqué une colère inimaginable. Et Bilham, lui, ne va pas regarder le sourire et la joie intense de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer, de la Shira, du don de la Torah, de tous les moments les plus merveilleux de notre histoire. Lui regarde la colère du Hegel. D'accord? C'est clair que s'il avait été à notre époque, il aurait dirigé Le Monde ou Libération ou le Times ou les grands journaux, c'est clair. Et il aurait été véritablement à la tête des plus grands médias mondiaux. Parce que c'est exactement ça le génie de Bilham. Être capable de mettre le doigt sur ce qui va mal. En tous les cas, ce qui resterait à comprendre, il faut que j'arrête le cours aujourd'hui, je suis désolé, on ne répondra pas non plus aux questions. Ce qui restera à comprendre, et ce sera l'introduction au cours de la semaine prochaine, bien que la semaine prochaine on va déjà dans Pinchas, mais Pinchas c'est lié à notre paracha, puisque Pinchas commence à être mis en évidence déjà à la fin de notre paracha. Ce qui restera à comprendre, ça va nous aider à mieux comprendre ce qui va se passer avec Pinchas, c'est qu'après avoir décrit le mécanisme, on n'a pas encore vraiment touché au pourquoi du mécanisme. Mais comment Bilham en arrive à une chose pareille? Comment tu vénères un juif et tu détestes à ce point le peuple de ce juif? Comment tu tu reçois une inspiration du livre de ce peuple et tu détestes à ce point le peuple de ce livre. Comment c'est possible? Alors le pourquoi du mécanisme, on va... Est-ce que c'est uniquement de la jalousie? À mon avis, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que ça dépasse l'entendement pour n'être que de la jalousie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais ça dépasse l'entendement comme mécanisme pour n'être que de la jalousie. Ça, on commencera à l'expliquer, Bezrat Hashem, dimanche prochain. Et on enchaînera sur Pinchas. Et une très très bonne fin de semaine. À très très bientôt.